La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'artiste Louise Bourgeois a traversé le XXe siècle. Née en France en 1911, elle a quitté son pays en 1938 pour suivre son mari, Robert Goldwater, de nationalité américaine et qu'elle avait rencontré peu de temps auparavant. Sa vie a été marquée par une grande difficulté d'être et une reconnaissance relativement tardive pour cette femme qui vécut jusqu'à ses 98 ans. Sa biographie, nous en avons parlé hier avec Marie-Laure Bernadac dans une émission à réécouter si vous le souhaitez. Demain, Jean Frémont, le directeur de la galerie Le Long, qui a bien connu Louise Bourgeois, sera l'invité de cette émission. Il a écrit deux livres au sujet de l'artiste américaine. Et puis jeudi, deux invités pour clore notre série. D'abord, Tiphaine Samoyau, qui a grandi comme Louise Bourgeois parmi des tisserands. Et ensuite, Evelyne Grossman, qui creusera pour nous l'aspect psychanalytique de son œuvre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour continuer à parler du travail de Louise Bourgeois et de ce que celui-ci produit sur le regardeur, nous sommes avec Nadine Satia, qui a publié en 2014 le livre « Au miroir de Louise » aux éditions Flammarion. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
J'organise une sculpture comme on soigne un malade. Mieux vaut savoir ce qu'on fait. Il faut mettre en œuvre une stratégie si l'on veut obtenir les résultats souhaités. Mes sculptures sont des équations infaillibles. Les équations doivent être testées. Est-ce que la tension baisse? Est-ce que la compulsion disparaît? Est-ce que la douleur cède? Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Je suis du genre toxicomane et la seule façon de se désintoxiquer, c'est de s'intoxiquer avec autre chose, quelque chose de moins dangereux. Le substitut, c'est ce qui forme la trame de mon travail. Les sculptures révèlent toute une vie fondée sur l'érotisme. La sexualité ou son absence est essentielle. Le désir de réussir, savoir comment réussir, est essentiel.
Quelques phrases des écrits de Louise Bourgeois, lues par Valérie Lang. Bonjour à vous, Nadine Satia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est pas facile d'appréhender l'œuvre de Louise Bourgeois, mais là, on vient d'avoir peut-être quelques clés. L'érotisme, le désir de réussir, les pulsions.
Alors, l'érotisme, elle l'a d'abord férocement nié. On lui demandait de commenter une œuvre dont l'aspect était... Enfin, évidemment sexuelle aux yeux de tout le monde au début, elle le niait farouchement. Et d'ailleurs, elle renvoyait l'interrogeur à ses propres interprétations. Et l'interprétation, ça, c'est le privilège de celui qui regarde. Moi, je ne vois pas de sexualité là-dedans.
Ça dépend un peu comment on posait la question, parce que si on utilisait un mot à la place d'un autre, elle voulait bien répondre.
Oui, et puis c'est surtout selon l'époque, évidemment. Au début, elle avait énormément mal. N'oubliez pas qu'au début, quand elle a lu des textes de psychanalyse, parce qu'elle a, après la mort de son père, elle a commencé une psychanalyse, elle était complètement démolie. Quand elle lisait des textes de psychanalyse, elle se sentait salie. Vous voyez d'où on part. On part d'une éducation quand même relativement traditionnelle. On part d'une famille où régnait tout de même une promiscuité sexuelle assez libre, mais où personne ne disait rien. Elle en a fait des sculptures. L'aveuglement, elle l'a beaucoup reproché à sa mère. L'aveuglement volontaire sur les frasques du père. Et en même temps, elle comme petite fille, ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Il y a eu un après-coup. Vous savez, c'est ce que dit Freud, en fait. Le traumatisme, on s'en rend compte après coup. Sur le moment, l'enfant ne peut pas le voir. Donc, en fait, elle a dû surmonter petit à petit ses inhibitions et cette répugnance à parler d'elle-même. Petit à petit, bon, elle a admis que tout de même, etc., en parlant d'autres artistes. Et puis finalement, dans les années 80-90, à partir du moment où elle a commencé à livrer son histoire personnelle pour la rétrospective du MoMA de 1982, là, elle a commencé vraiment vraiment à se libérer elle-même en parlant. Elle a fini par, à la fin, quand les intervieweurs lui disaient « ce n'est pas trop personnel », parce qu'ils avaient peur de se faire rembarrer, elle disait « non, non, maintenant, j'ai envie de rendre tout ce qui est privé public pour m'en débarrasser ».
Et alors sur le désir de réussir, c'est une manière d'analyser l'œuvre, ça ?
Alors, désir de réussir, moi je vois ça à partir de 1939, quand elle revient en France. Elle a fait ses premiers pas avec l'Art Student League de New York, avec un monsieur qui s'appelait, un peintre qui s'appelait Vite Lassile, hein, qui était un passeur du modernisme à New York dans ces années-là. Elle commence là à s'intéresser nettement à Picasso. Quand elle revient à l'été 1939 à Paris, là, le peu de textes auxquels j'ai eu accès, qui étaient déjà publiés, notamment les correspondances, elle dit qu'elle étudie Picasso. Et quand on regarde, mais ce qu'elle étudie exactement, naturellement, elle étudie les œuvres, mais elle étudie surtout pour voir comment Picasso est devenu Picasso.
Donc sa carrière.
Oui, c'est ça. Elle est préoccupée de voir comment cet homme a eu ce qu'elle appelle, dans un autre documentaire, un itinéraire unique. Elle était préoccupée d'avoir un itinéraire unique. Elle disait, vous partez du point A, vous arrivez au point Z, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps ?
Donc il y a une stratégie dans la carrière de Louise Bourgeois ?
Il y a ce mot stratégie qui revient alors, dans diverses circonstances. Ce n'est pas vraiment une stratégie. Je pense qu'elle avait envie... En fait, je pense que c'était quelqu'un de très sérieux dans son ambition de peintre. Elle disait qu'elle avait envie d'inventer quelque chose. Au début, elle avait envie d'inventer des signes. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait vraiment, qui était dans une recherche très sérieuse. C'est quelqu'un, comme l'a dit Marie-Laure Bernadac hier, qui était très éduqué, qui s'était vraiment très sérieusement intéressé à l'histoire de l'art. Même si ensuite, après la mort de son mari, elle s'est rendue compte que l'histoire de l'art et surtout les historiens d'art l'avaient pas autant aidé qu'elle l'aurait voulu ou qu'elle l'aurait peut-être cru. Et là, elle s'est complètement désolidarisée des historiens d'art. Mais sinon, oui, elle a étudié très sérieusement. Et sa mère avait très à cœur de lui transmettre tout le savoir autour des tapisseries 16e, 18e, tous les motifs, les monstres mythologiques, les idylles. Donc ça commence très tôt, en fait, l'éducation.
On reviendra peut-être, si on a le temps, sur justement cette formation artistique de Louise Bourgeois. Je voudrais revenir sur cette phrase qu'elle dit au tout début des écrits qu'on a entendus en ouverture de cette émission, quand elle dit « J'organise une sculpture comme on soigne un malade ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Alors, soigner un malade. D'abord, elle sait ce que c'est que de soigner un malade, parce qu'elle s'est occupée de sa mère qui souffrait d'emphysème à la suite de... qui avait contracté la grippe espagnole, qui est morte en 1932. C'était très ambigu, parce que d'un côté, elle s'est vraiment occupée exclusivement de sa mère. D'un autre côté, elle a découvert petit à petit, au fil du temps, et probablement de la psychanalyse, qu'elle était tout de même ambivalente envers cette mère qu'elle adorait par ailleurs et qu'elle admirait pour sa rationalité, sa compétence, sa ruse aussi. Elle a fait une statue dans les années 80 qui s'appelle la renarde, She Fox. Mais la ruse aussi qui faisait que sa mère pouvait déléguer la petite fille pour surveiller les frasques du père. Elle lui en a toujours voulu pour ça. Donc soigner un malade, évidemment, le malade c'est elle. D'une certaine manière, elle s'identifie avec le malade. La première cellule qu'elle a faite, c'est une chambre de malade, avec des fioles et toutes sortes d'ustensiles. Elle est malade de quoi ? D'abord, elle ne le reconnaît pas malade. Elle-même, elle est malade du mal du pays, de la nostalgie, d'avoir laissé derrière elle sa famille, d'avoir laissé derrière elle la France. Elle admet pas que ça lui manque. Et ça, c'est le début, en fait, c'est la première énergie qui l'amène à ses premières sculptures.
Ça veut dire aussi que la sculpture, elle est vivante. Si on doit la soigner... comme on soigne un malade.
Bien sûr, c'est une question de survie pour elle. Dès le début, en fait, elle est très très affectée par toutes ces personnes qui lui manquent. Elle est dans une grande ambivalence, parce que d'un autre côté, ces personnes qui lui manquent, ces personnes de sa famille, lui ont fait beaucoup de mal. C'est très long à expliquer, elle passera toute sa vie à le faire, donc je ne vais pas m'amuser à essayer de le résumer ici. Mais d'accepter ce côté thérapeutique de l'art, c'est quand même ce qui lui a permis de l'admettre, tout simplement. D'admettre qu'elle souffre, admettre sa souffrance, ne plus nier sa souffrance et l'affronter en réalisant des œuvres. C'est le moteur premier de son travail, je pense.
Alors Nadine Satia, vous avez écrit ce très beau livre « Au miroir de Louise », qui raconte d'une manière assez originale votre appréhension de l'œuvre de Louise Bourgeois. C'est un livre qui est écrit quasiment d'une seule coulée, sans indication de chapitre. C'est une sorte de monologue qu'on pourrait dire monologue extérieur, parce que vous parlez de vous-même en disant « vous ». Et vous êtes une spectatrice de l'œuvre de Louise Bourgeois dans ce livre, et même une visiteuse de la rétrospective du Centre Pompidou de 2008, au cours de laquelle vous avez découvert l'œuvre de Louise Bourgeois.
Oui, un petit mot là-dessus, parce que ça n'a pas été compris. Pourquoi vous ? Parce que, en fait, moi, je suis une parmi d'autres. Je suis une visiteuse parmi d'autres de l'exposition. Il faut absolument réserver le « je » à Louise. C'est Louise qui parle à la première personne dans ce livre. Moi, je parle d'elle comme d'elle. Et vous, eh bien, c'est vous et moi, nous visiteurs, qui pouvons, nous, comme ça, par cette deuxième personne du pluriel, glisser, nous identifier à la démarche du biographe, autant qu'à la démarche de n'importe lequel des visiteurs.
Et vous avez découvert cette œuvre à l'occasion de la grande exposition de 2008, mais vous ne connaissiez pas l'œuvre de Louise Bourgeois. Le jour où vous avez mis les pieds dans le Centre Pompidou, ça a été pour vous une découverte, un choc?
Eh bien non, vous voyez, je ne sais pas tout, je l'admets bien humblement. Alors
maintenant vous en savez beaucoup.
Hein, si j'avais vu une affiche qui m'avait profondément répugné, c'était Seven in Bed, qui date je crois de 2001. Sept dans un lit, et dans ce lit où il y a sept personnages, il y a des personnages qui ont deux têtes. C'est-à-dire que c'est vraiment une représentation très crue, infantile, très dérangeante, en tissu rose, cousue à gros points. Elle disait qu'elle voulait pas faire des trucs de femme. Donc c'était vraiment, les coutures sont comme des cicatrices. Il y avait des personnages avec des petits zizi, etc. C'était très déroutant. Et surtout, tout de suite, enfin, en tout cas, moi, et je pense que c'est assez une angoisse assez répandue. On s'est dit, mon Dieu, mais oui, ça, c'est ce qu'on éprouve quand on fait l'amour avec quelqu'un, ou qu'on embrasse quelqu'un, que cette personne embrasse quelqu'un d'autre.
Parce que certains personnages ont deux têtes, et en effet,
voilà,
embrassent à droite
et à gauche.
Voilà,
il y a des personnages qui ont deux têtes, et qui enlacent une personne d'un côté, et embrassent une personne d'un côté avec leur tête, et une autre personne dans le. Et ça, il n'y a pas de représentation plus forte de la duplicité, de la tromperie amoureuse.
Ça vous a angoissé, ça vous angoisse, cette œuvre de Louise
Bourgeois?
En fait,
sur le moment, ça m'a répugné. J'ai dit, mais j'ai pas envie d'aller voir ça, je veux pas aller voir ça. Et pourtant, évidemment, ça m'a tellement parlé tout de suite que quand j'ai entendu l'annonce de l'exposition, je me suis précipitée.
Ce qui a provoqué ma première sculpture, c'est la peur de la zizanie. C'est-à-dire que quand j'avais 7 ans et que nous étions tous à table, n'est-ce pas, mon père commençait à nous agacer. Parce qu'il se vantait toujours. J'ai roulé celui-ci, j'ai fait une affaire, j'ai trouvé des tapisseries pour toi, j'ai trouvé une statue, Il se vantait tout le temps, un vantard. Alors, ça m'agaçait un petit peu. Et puis après, il regardait la maîtresse, Cédée, qui était à table avec nous. Et puis alors, il lui disait, eh ben alors, allons-y Cédée, allons-y, allons faire un tour de billard. Alors, il descendait, il y avait 3 marches comme ça. Et puis alors, il jouait au billard. Il jouait au billard pendant des heures. Alors, moi, je sentais la zizanie venir parce que forcément, maman, ma mère n'aimait pas beaucoup ça. Alors, pour m'occuper, parce que je ne pouvais rien dire, je devenais aveugle. Je ne voulais pas voir la maîtresse et le père au billard. Et alors, je me mettais à modeler avec mes mains, vous comprenez, la mie du pain. Alors nous avions toujours des baguettes, mais l'intérieur des baguettes chaudes avait de la mie de pain qui était malléable. Et ces petites figures ont été mes premières sculptures.
La compagnie des œuvres et vous êtes bien sur France Culture. Alors cette angoisse que vous avez ressentie, Nadine Satia, en voyant cette affiche dont on parlait à l'instant, peut-être au fond qu'il est normal de la ressentir puisque visiblement c'est l'angoisse qui au départ donne envie dès l'enfance à Louise Bourgeois de sculpter elle-même.
Mais absolument, quand elle parle de la zizanie, c'est bien de ça qu'il s'agit. Les seven in bed, les sept dans le lit, c'est la zizanie avec des tentations incestueuses, c'est traversé de toutes sortes. Les relations sont extrêmement compliquées. Il y a beaucoup aussi de disputes. Elle a dit qu'elle a beaucoup souffert des disputes au point que lorsqu'elle a eu suffisamment d'argent, elle achetait des maisons vides. Parce qu'elle disait au moins les maisons vides, c'est les maisons dans lesquelles, c'est maisons tranquilles, c'est des maisons dans lesquelles il y a pas de disputes. Alors, la zizanie, ça a une très grande importance, le chaos en fait, cette sensation enfant qu'elle a eue de vivre dans un chaos relationnel auquel elle ne comprenait rien naturellement, puisqu'elle a compris plus tard. Ça a un rapport avec la conception qu'elle a ensuite et qu'elle a formulée de la sublimation. Elle a dit finalement qu'elle a passé sa vie dans son travail d'artiste. Elle a passé sa vie à séparer les choses, parce qu'elle avait horreur de la confusion. Alors ça peut paraître éminemment paradoxal. Par exemple, les cellules, vous voyez, vous prenez
un
problème...
Il faut dire ce que c'est qu'une cellule, parce que alors, quelqu'un qui cellules, n'aurait jamais vu
l'exposition... Mais alors si on sort comme ça, on ne va jamais s'en sortir, parce que tout est relié à tout. Les cellules, c'était des cages dans lesquelles justement on pouvait enclore une partie du problème qu'on avait séparé du reste et qu'on pouvait traiter à part.
Donc des cages à l'intérieur desquelles on pouvait trouver
des cages en
parfois
métal.
Des chaises volantes, parfois des objets tout simplement, mais aussi parfois des manuscrits, des choses écrites, enfin tout un type de choses.
Oui, en fait, elle disait attention, mes sculptures sont des équations infaillibles. Donc c'est pas choisi au hasard, ça peut paraître un bric-à-brac, c'est pas du tout un bric-à-brac pour elle. Et celle qu'on peut comprendre, parce qu'elle en a parlé suffisamment pour qu'on puisse les comprendre, elle dit il faut faire très attention à l'aspect visuel, il faut faire très attention à la manière dont les choses sont placées les unes par rapport aux autres. Mais pour revenir à la zizanie et au chaos, d'abord, c'est pas d'abord des cellules qu'elle a faites. Elle a fait des cellules après 1980, lorsqu'elle a disposé d'un espace suffisamment grand pour réaliser ces choses qui sont gigantesques. Enfin, Spider, l'hommage à la mer, ça fait 6,50 mètres de haut. Voilà, avec une grande cage ronde en grillage qui doit faire au moins 5 mètres de diamètre. Donc, il fallait beaucoup de place pour faire ça. Non. Si on revient un petit peu en arrière, la zizanie, la confusion, gérer le chaos qui au fond la rendait malade, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a à la fois séparé, mais presque tout de suite, elle a fusionné, elle, d'autres choses qui nous semblent, à nous spectateurs, en tout cas quand on les voit pour la première fois, extraordinairement confuses.
Comme par exemple.
Mais vous regardez. Alors bon, il y a des choses qui sont relativement lisibles, un peu surréalistes dans la facture. Les femmes maison, c'est la traduction littérale de housewife, la femme au foyer. C'était ce qu'on lui renvoyait constamment dans la figure quand elle fréquentait des artistes, qu'elle voulait collaborer à des choses. Elle a été rabaissée par certains surréalistes. Je ne sais pas exactement lesquels. Je ne veux pas le savoir. Pas Duchamp qui disait non, lui, il n'était pas macho. Mais bon. Visiblement, elle a été rabaissée.
Dont le nom commencerait par un B, je ne sais pas. Comme André Breton, non on n'a pas le droit de le dire.
Non, parlons pas. C'est trop méchant, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, ça ne l'intéressait pas non plus. Elle ne voulait pas en parler. Bon, mais elle était très proche des surréalistes par ailleurs. Elle aurait bien voulu. Mais ils avaient 30 ans, 35 ans d'écart. Donc, c'était tout de suite des figures paternelles pour elle. Elle avait fui la France pour fuir son père et cet écrasement du père. Ce n'était pas pour se remettre sous la coupe de figures paternelles. Donc, laissons tomber. Maintenant. Fusion.
C'est important.
Voilà, la fusion. Regardez, une œuvre extraordinairement... même en la regardant, pour préparer l'émission, j'ai regardé à nouveau le catalogue. Le torse de 1963. Une œuvre en plâtre, à peu près 60 cm de haut, 40 de large, 20 cm d'épaisseur. Vous regardez de loin, ça s'appelle torso, à l'italienne, autoportrait. Alors déjà, il faut dire que pendant très très longtemps, elle dit non, c'est pas un autoportrait. Jerry Gorovoy, son assistant, ensuite a dit, mais pratiquement tout ce qu'elle a fait relève de l'autoportrait. Elle a admis plus tard. Là, elle le revendique. C'est assez étonnant. On voit ça de loin, on a l'impression que c'est une plante. Alors, on voit de grosses feuilles. Comme on vous dit torse, vous voyez deux petites boules en haut, vous dites, bon d'accord, c'est les petits seins. En plus, elle a fait un portrait au crayon en 1942, où elle avait des tout petits seins très haut placés. Elle a dit que c'est une erreur de jeunesse plus tard, mais bon. Donc les petits seins, on se dit, bon, les feuilles, la cage thoracique. En bas, deux renflements, peut-être les fesses. Et au milieu, quand on s'approche, on est un petit peu surpris, parce que effectivement, il y a un organe féminin très bien dessiné, un clitoris avec ses deux petites formes oblongues, un anneau, etc. Et en dessous, une chose que franchement, sur le moment, on ne comprend pas. On se dit, mais c'est un petit peu plus grand, qu'est-ce que c'est? C'est un petit violon, un organe masculin, on ne sait pas, on ne comprend pas. Bon. Mais ce qu'on voit... Sur le plan formel, bah évidemment, on lui aurait dit clitoris, elle lui dit, mais ça, c'est vous. Moi, j'ai pas dit ça, bien entendu. Alors, j'ai jamais admis qu'on lui dise ça en 63. Mais, du point de vue formel, un des premiers autoportraits qu'elle a fait en peinture s'appelle Rouge, histoire naturelle, je crois que c'est en 1944. Et c'est déjà un triptyque où au milieu, il y a une plante. Et il y avait déjà des plantes dans les personnages. Donc, elle, ce qui l'aurait intéressé, c'est cette évolution formelle où elle commence à séparer des éléments pour, mais là, c'est pas complètement réussi. Vous m'interrompez?
Je lève le doigt.
Vous levez le doigt?
Pour dire quelque chose. C'est vrai que moi, cette sculpture, ce torse, oui. Je la trouve assez effrayante, précisément parce qu'on ne sait pas si on est dans l'organique, si c'est de la chair qui est représentée, si c'est une plante, on ne sait pas si c'est du masculin, si c'est du féminin, on ne sait pas si c'est érotique ou si, au contraire, c'est monstrueux. Est-ce que vous le ressentez aussi et qu'est-ce que finalement vous ressentez, en effet, quand vous voyez ce genre de sculpture de Louise Bourgeois?
Si je vous dis inquiétante, étrangeté, d'autres ont répondu pour nous. On est là dans une espèce de tentative de représenter l'infigurable, c'est-à-dire cette notion d'identité. Alors, chez elle, ça a une postérité extraordinaire. On peut dire, en tout cas, que dans un second temps, naturellement, on a l'impression que la sculpture entière est la figuration d'un sexe, en réalité, et que les feuilles sont comme la toison de ce sexe féminin, masculin, à la fois. Mais 4 ans plus tard, il y a Fillette.
Alors Fillette, parlons de Fillette. Ce que c'est.
Fillette, c'est aussi un organe séparé de tout corps. Elle, c'est célèbre parce qu'elle s'est fait...
C'est un gros sexe
c'est
d'homme.
C'est un gros pénis. Enfin, alors, à première vue, un pénis masculin, deux boules, mais alors très abstraites, très rondes. C'était dressé. Alors, c'est célèbre parce qu'elle a été photographiée par Mapplethorpe. Très bien. Mais en réalité, c'est une sculpture suspendue.
Oui.
Tout ce qui est suspendu, chez Louise Bourgeois. Alors, suspendu, ça renvoie aussi au masculin pour elle, puisqu'elle dit, elle s'occupe des directions. Donc, la direction des seins qui pointent vers l'avant, la direction du sexe masculin qui pointe. Ça l'intéresse, cette question des directions.
Pourquoi?
Mais parce que ça fait partie des aspects formels, en fait. Vous lisez Kandinsky, il vous dira, mais quand ça tombe du haut à droite vers le bas à gauche, c'est pessimiste, et quand ça tombe de l'autre côté, c'est... Voilà.
Donc c'est les hommes qui sont pessimistes, alors?
Non, c'est pas ça.
Ah bon?
Ça fait partie de l'aspect formel des choses. Mais ce qui est fascinant, quand vous regardez cette œuvre, qui a l'air, effectivement, pas du tout équivoque, quand vous la regardez de plus près, elle est pas du tout ce qu'elle paraît. On pourrait dire, en la comparant avec d'autres sculptures, notamment les Janus, la série des Janus qu'elle a fait, que les boules, comme chez Hans Bellmer d'ailleurs, les boules sont comme le haut des cuisses d'un personnage qui serait assis. Et si vous regardez bien, vous verrez entre les deux un tout petit sexe féminin, qui est le sexe de Fillette, en fait.
Je travaille à tous ces paysages, des paysages inconscients, doux, d'une extrême douceur. Même les œuvres cumulent, tout cela se rattache au même groupe. Ils sont anthropomorphes. mais ce sont en même temps des paysages. On pourrait considérer notre propre corps d'un point de vue topographique, comme une terre avec des collines et des vallées, des grottes et des cavités. Aussi, il me semble assez évident que la configuration de notre propre corps se retrouve chez notre mère, la terre. C'est de là que viennent ces paysages. Techniquement, il y en a de deux sortes. Le paysage coulé, en latex, que l'on ne peut pas réellement contrôler dans la mesure où il est coulé. Et une espèce de paysage sculpté et taillé, dont les reliefs sont sculptés au ciseau et au maillet. Le dernier paysage que j'ai réalisé était composé de mamelles. Bon, imaginez une chienne ou une vache. Vous la mettez sur le dos et vous obtenez un paysage très intéressant, mobile, vivant, souple. Tout revient à ça. Si vous pressez un enfant nu contre votre sein nu, ce n'est pas la fin de la douceur, c'est le commencement de la douceur, c'est la vie même. Durant mon dernier séjour en Italie, je me suis intéressée, pour des raisons que je ne connais pas et que je ne me soucie même pas de connaître, à la rigidité qui est à l'opposé exact. J'ai réalisé une série, Femme tombée, mais aussi Femme perdue. La femme tombée est en état de choc et bon, de raideur. Elle tombe comme une flèche, elle ne s'écroule pas sur elle-même, elle tombe comme quelqu'un de très raide. La femme tombée est revenue après de nombreuses années en marbre. Bien sûr, elle n'a pas de bras et elle tombe la tête la première. Il y avait un autre portrait, dans la mesure où toutes ses œuvres sont des portraits. Où ma sœur apparaît sous la forme d'une femme enceinte, la femme enceinte à la jambe de bois.
Des œuvres sur France Culture, nous parlons de Louise Bourgeois. Avec vous, Nadine Satia, un corps, des mamelles, c'est donc un paysage pour Louise Bourgeois.
Oui, là, elle fait allusion en fait à la région, à une œuvre qui porte le nom de la région de Carrare, où elle est allée avec une bourse apprendre à travailler le marbre et aussi le bronze d'ailleurs, qui est la région d'Avenza. Alors Avenza, ça c'est encore autre chose. Il faut revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce qu'elle dit sur le coulé. Elle a commencé sous le coup de la peur et pour elle toujours, quand elle a peur. Elle se raidit, elle a commencé par des œuvres extrêmement raides, longilignes, en forme de fuseaux, de navettes, qui représentaient justement les personnes absentes qu'elle avait laissées en France. D'abord très isolées, puis ensuite en groupe.
Donc déjà, des grandes sculptures,
oui, à taille humaine,
qui ressemblent un petit peu aux colonnes de Brancusi, par exemple.
Ah non, pas à cette époque-là. Enfin, disons, vous pouvez pas les rapprocher. Je sais qu'on a parlé de Brancusi pour d'autres raisons, mais là... Non, là, on les appelait les figures totémiques, mais parce qu'on avait aussi dans la tête le travail de son mari sur le primitivisme. Elle a rejeté cette appellation totémique parce qu'elle en avait assez qu'on lui parle constamment de son mari et de la spécialité de son mari, mais en réalité, c'était quand même des totems, c'est-à-dire c'était quand même des figures qui prenaient la place des personnages du clan qui lui manquaient. Mais c'était surtout très raide. Et puis, ça s'est regroupé. C'était déjà un premier pas pour elle d'arriver à les regrouper, à les faire dialoguer entre eux. Bon, et c'était des personnages qui étaient plantés sur une pointe, en équilibre instable, mais plantés quand même. Elle voulait pas qu'ils s'en aillent. Quand on lui disait alors Giacometti, etc., elle disait non, les pieds de Giacometti, ils sont très gros et ce sont des personnages qui marchent. Les personnages de Giacometti s'effilent en s'élevant. Les miens sont tout minces en bas, ils sont dans un équilibre précaire, comme elle-même. Et de là, le coulé au début des années 60, après cette période de long marasme entre 53 et 64 où elle a pratiquement pas d'exposition personnelle, pas du tout d'ailleurs, mais elle participe à beaucoup d'expositions collectives, le coulé, d'une certaine manière, c'est un relâchement. Elle dit qu'elle a ressenti la douceur tout de même.
Donc c'est un changement dans les matériaux aussi.
Oui, c'est un changement dans les matériaux. Mais l'idée de verser, de couler, ça a été vraiment gagné sur la raideur.
D'accord. D'ailleurs, elle l'explique que finalement, si on vivait suffisamment longtemps, on finirait par être apaisé. Parce qu'on va
bien
de la
sûr.
Raideur à quand même de plus en plus de détente, de couler. Elle a vécu jusqu'à 98 ans. Je ne suis pas sûr qu'elle était très très détendue quand même, même
mais
à
si,
la fin.
Mais si, quand vous voyez la dernière cellule, d'ailleurs c'est magnifique, il y a des petites bobines bleues, il y a des bulles bleues en vert qui s'élèvent vers le ciel. Il y a un trou dans la cage, il y a un escalier qui monte, c'est ouvert, ça s'appelle Last Climb ou quelque chose comme ça. Il y a une idée d'éternité et le bleu, c'est la couleur de l'apaisement pour elle, c'est la couleur de la réparation. Donc je pense quand même que dans une large mesure, elle a réussi à se réparer elle-même.
Est-ce qu'il y a, parce que là, on parle beaucoup des concepts finalement qui se trouvent derrière ces œuvres, d'un point de vue purement graphique, d'un point de vue purement pictural, que pourriez-vous dire sur l'œuvre de Louise Bourgeois ?
Attendez, vous allez trop vite. On était en train de parler des paysages. Elle cherche des signes. Donc en fait, elle, petit à petit, elle écarte les éléments inutiles et puis elle extrait de ça des choses signifiantes qui ont entre elles des relations de plus en plus complexes. Simplification de la forme et en même temps complexité des relations entre les choses. Évidemment, quand on parle de ce paysage, c'est une espèce de bouquet, comme on dirait une botte d'asperges qu'on aurait tronquée, une espèce de bouquet qui, à première vue, c'est à la fois très apaisé parce que c'est blanc, ça correspond à une période paisible pour elle en Italie. En même temps, ça a quelque chose d'éminemment sensuel. On voit dessous un voile qui est un peu comme de la peau, qui ressemble au drapé de la Sainte Thérèse du Bernin. On voit affleurer des arrondis dont on ignore encore une fois s'ils sont masculins, féminins, si ce sont des germes, si ce sont
des yeux.
Des yeux, pas encore, je
non,
pense,
pas
à ce moment-là.
Yeux.
Mais bon, et en même temps,
plus
quand
tard,
elle dit paysage, c'est parce que l'œuvre antérieure à celle-là cumule. Première œuvre acquise par le Musée d'Art Moderne de Paris. L'œuvre antérieure, réalisée avec une coulure de latex rouge, et là, franchement, on a l'impression d'une botte de pénis. On peut pas, vous ne pouvez pas...
C'est l'œuvre que vous avez choisie pour la couverture de votre livre.
Non, c'est autre chose. Ça,
c'est vous pouvez nous la décrire, cette œuvre, pour la couverture de votre livre.
C'est pas moi qui l'ai choisie, d'ailleurs. C'est une œuvre qui fait plutôt allusion alors à quelque chose d'antérieur, 1956. Là, c'est réalisé en main, parce qu'elle a refait, en fait, certaines œuvres qu'elle a réinterprétées. Elle a essayé dans diverses matières. Ça, c'est plutôt une référence au groupe dont je vous parlais. C'est le moment où les figures toutes seules du début commencent à se regrouper. C'est le grand drame.
Donc c'est comme un petit peu des plantes.
Là, ce n'est pas des plantes, c'est plutôt des fuseaux.
Qui sont regroupés entre eux.
Ouais. Dans Avenza, ensuite, c'est arrondi, c'est assez différent. Mais ça, c'est le groupe, c'est la pression du groupe, l'individu face au groupe. Vous voyez bien qu'il faut jouer des coudes dans ce groupe-là, sinon on est étouffé.
Donc finalement, c'est quand même assez indécidable l'interprétation des œuvres de Louise Bourgeois. On ne peut pas dire cette œuvre représente ça ou ça, bien qu'elle-même ait donné quand même des indications très très fortes et qu'on puisse dire, vous le dites d'ailleurs, que c'est une œuvre qui est autobiographique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est autobiographique
mais
de
moi,
A
à Z ? Mais moi, j'ai
pas
dit ça, mais je veux faire ma Louise Bourgeois. Moi, j'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Non. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, elle avait beaucoup de mal quand on voyait des choses sexuelles, à admettre que c'était des choses sexuelles. Elle avait aussi beaucoup de mal à se livrer sur des choses personnelles. Mais que petit à petit, d'abord, elle était modifiée, elle était transformée par sa propre œuvre. Et petit à petit, elle a accepté, et notamment à partir de la rétrospective de 1982, elle a commencé à se raconter.
Grande rétrospective qu'il a,
oui.
Dit-on,
lancé.
Et là,
elle a commencé à se raconter. Et là, ça change tout. Là, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus.
Il me semble, Louise Bourgeois, que pour vous, l'araignée est un animal protecteur.
Oh, c'est un animal protecteur, oui, contre les moustiques, c'est-à-dire contre les virus. Et l'araignée est mon animal préféré. Et c'est un symbole de ma mère.
Pardon ? Elle tissait, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai, elle tissait, mais elle avait aussi des qualités qu'on trouve chez les araignées.
Quand vous dites elle tissait, elle
tissait. Alors j'ai fait une œuvre là-dessus qui s'appelle Ode à ma mère. C'est une œuvre littéraire qui a été publiée en France et qui est illustrée par toutes mes araignées.
Chant de l'araignée, me dit Laurence Millet, la réalisatrice qui a choisi ce petit extrait. Nadine Satia, ces araignées, on va en parler. Je vais vous laisser évidemment dire ce que vous souhaitiez dire avant l'archive. Mais comme c'est l'œuvre peut-être la plus célèbre, de Louise Bourgeois, ces araignées en bronze. Il faut peut-être dire un mot sur leur ambiguïté quand même, parce que en effet, elle ne cesse de nous dire, Louise Bourgeois, qu'elle aime beaucoup cet animal et que donc il représente sa mère et que finalement c'est quelque chose de positif. Enfin, on ne peut pas oublier que dans l'inconscient de nous tous, l'araignée est quand même quelque chose qui fait d'abord peur. Comment vous la voyez-vous, cette œuvre ?
Je crois qu'il faut, l'écouter quand elle dit que son œuvre est entièrement personnelle. Il faut la suivre sur ce terrain, d'autant plus qu'à la fin, elle s'est représentée elle-même comme araignée dans certaines gravures, etc. L'araignée fatiguée de la fin, c'est Louise Bourgeois elle-même. Donc il faut vraiment s'en tenir à cette histoire de la fileuse, de la tisserande, même si, encore une fois, c'était peut-être pas très gentil non plus. C'est peut-être pas une image très gentille de la mère, mais comme je vous dis, il y avait quand même une ambivalence. Mais je pense que c'était quand même largement positif. Et d'autre part, il y a beaucoup d'autres représentations de la mère, notamment la renarde, où elle faisait remarquer, regardez cette petite figure qui est sous l'arrière-train de la renarde, c'est moi. Donc c'était vraiment une figure protectrice pour elle.
Dans cette exposition de 2008, que vous avez du coup découverte sans avoir forcément l'intention de que ça change votre vie, et bien pourtant ça a un petit peu changé votre vie quand même, cette exposition. En tous les cas, ça a changé votre regard sur les choses.
Mais je me suis rendu compte à ce moment-là de ce que je faisais devant les œuvres d'art contemporain. Alors des fois on me dit alors comment il faut regarder, j'ai pas de prescription. Mais je pense que vraiment devant les œuvres de Louise Bourgeois qui sont vraiment très narratives, surtout d'ailleurs une fois qu'on a connaissance de ce qu'elle a raconté en 82 sur sa propre vie, on se rend compte à quel point la partie d'autobiographie est importante, enrichit la compréhension des œuvres. Il y a des œuvres, par exemple les premières œuvres des années 90 où elle utilise ses propres vêtements. Elle va les sacrifier, après elle va les couper en morceaux. Il y a un moment où elle les suspend. Bon, mais vous voyez, il y a des œuvres où on sait que la présence de tels vêtements renvoie à un événement précis de sa vie. D'ailleurs, l'œuvre est sans titre. Je pense à une œuvre où il y a des... Où sans le vouloir, elle atteint à une universalité... Elle dit quelque part que son œuvre est en résonance avec la totalité de la tradition artistique, pour répondre aussi à ce que vous me disiez au début à propos de l'histoire de l'art. Là, on voit une vanité, c'est-à-dire on voit un mât avec des bras en étoile, au bout des bras un petit crochet, en guise de cintre, d'énormes os de boucherie, qui sans doute renvoie à son enfance à Aubusson aussi, puisque en face de l'atelier de sa grand-mère, il y avait un abattoir, et là-dessus, des sous-vêtements féminins, et vraiment le contraste est totalement déchirant et c'est une vanité de plein droit.
Mais je vois que vous ne souhaitez pas répondre exactement à la question que je vais reposer autrement. C'est quoi la leçon de Louise Bourgeois pour vous ? Par exemple, quand elle dit des choses qui vous encouragent, à écrire, par exemple. On sent que entre vous et elle, il y a une espèce de relation de proximité. Alors, vous ne vous connaissez pas, mais entre son œuvre et elle, comment est-ce que vous pourriez décrire ce qu'elle vous a apporté à vous personnellement ?
Il y a des petits points de raccord qui m'ont beaucoup frappé. Elle est allée au lycée Fénelon, moi aussi. Elle s'est mariée à Saint-Sulpice avec un Américain, moi avec un Anglais, mais au même endroit, quelques années plus tard, sans prévenir mes parents non plus. Et puis surtout, quand j'ai lu certaines déclarations d'elle, par exemple, elle disait que la seule forme de critique d'art qu'elle trouvait intéressante, c'était celle qui essayait de rendre les œuvres vivantes par leur description. J'avais déjà commencé à écrire le livre. Je me suis sentie évidemment extraordinairement encouragée dans cette démarche de mettre en mots, je pense que c'est la grande leçon du livre. Quand vous êtes devant une œuvre d'art contemporain, que vous êtes perdu, ça vous parle mais vous savez pas de quoi, allez-y, faites l'effort, soyez actifs. Pour elle, son art, c'était sortir de la passivité, devenir actif, s'emparer de ses peurs, pour être vivant ici et maintenant. Ça me parle.
Ce qui vous parle aussi, c'est la maison de Choisy, parce que vous avez grandi pas très loin de...
Mais dès l'entrée, vous voyez cette maison, tout de suite, quand vous vous racontez...
Donc c'est une des œuvres de Louise Bourgeois.
Oui, il y a une cellule, il y a une maison en marbre, une espèce de maison de conte. Moi, elle brillait dans la lumière du spot, dans la pénombre. J'ai eu l'impression que c'est une maison en sucre. Mais vous voyez, quand vous vous dites à vous-même, tiens, une maison en sucre, une maison de conte, et que vous lisez, un an après, dans un texte sur les matériaux, que Louise Bourgeois a dit que le marbre était le sucre des pierres. Mais évidemment, vous vous sentez extraordinairement encouragé à être honnête avec vous-même, à dire quand vous comprenez pas, je ne comprends pas, à essayer de vous décrire à vous-même ce que vous voyez. Et je pense que là, c'est la bonne manière d'entrer dans son œuvre et certainement pas d'aller directement aux interprétations.
Une autre leçon de Louise Bourgeois, Nadine Satia, ça pourrait être que pour se réaliser complètement en tant qu'artiste, il faut une totale absence d'arrogance.
Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, dès que vous êtes trop ambitieux, vous entrez en rivalité. Elle a passé son enfance à être en rivalité avec ses frères et sœurs. Et en fait, elle dit que la rivalité est extrêmement négative pour la création. Donc oui, absence d'ambition et absence d'arrogance.
L'imperfection, c'est ce qui vous fait marcher. Moi, je travaillerai sur une pièce encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit parfait. L'imperfection est une chose, c'est une chose qui vous motive. Oui. C'est pour ça que je travaille en série. Par exemple, si vous voyez dans le fond de l'atelier ici, il y a the Arch of Hysteria, l'arche de l'hystérie. Mais j'en ai fait une douzaine. Parce que je n'arrivais pas à produire ce que je voulais. Et c'est ce sens d'imperfection qui me fait continuer. On ne peut pas se lasser, n'est-ce pas ? Il y a une espèce d'acharnement, là, que je possède. Oui. Je ne me fatigue pas des choses. Si j'ai un sujet, eh bien, il y a une chose éternelle, là, qui revient et qui, comme un tissage, vous savez, on le fait, puis après on le refait, puis après on le refait, et puis après c'est pas parfait. Alors on le défait. Ça a à voir avec le thème de Pénélope, qui tissait sa toile pendant le jour, pendant qu'elle attendait son mari. Elle tissait pendant le jour et elle détissait pendant la nuit. Ça a à voir avec le tissage, puisque nous sommes des tisserands. Oui, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le travail que je fais aujourd'hui et le travail qui doit être fait pour demain. C'est ça qui occupe mes pensées, ce ne sont pas tellement les souvenirs. Mais les souvenirs vous importunent, c'est un chargement c'est un chargement dont il faut se débarrasser, on ne peut pas vivre de souvenirs.
D'un entretien de 1999 avec Monette Berthommier. L'art chez Louise Bourgeois, il naît du désir qui n'est jamais satisfié, Nadine Satia ?
Non, il naît du désir de liquider des affects qui vous tracassent. Et quand elle parle des souvenirs, elle dit ailleurs, les souvenirs involontaires, pas ceux qu'on rameute soi-même, les souvenirs involontaires sont comme des semences. Et en fait, comme elle a une énorme mémoire, ces semences reviennent. Elle dit aussi, ces thèmes sont récurrents et éternels. Donc effectivement, elle retravaille sans arrêt et I do, I undo, I redo. Ça, c'est le titre de ton énorme installation pour l'inauguration de la Tate Modern à Londres. C'était trois tours où en haut, alors pour la plus petite, celle de droite, il y avait des miroirs. Alors peut-être on peut dire un mot des miroirs justement. Allons-y. C'est le miroir chez
votre
elle.
Votre livre s'appelle Au miroir de Louise.
Et oui, Au miroir de Louise. Alors le miroir, c'est à la fois quand on s'y regarde, là on voit la personne qu'on doit accepter. Il faut s'accepter tel qu'on est. Grande leçon de Louise Bourgeois. Le miroir, c'est aussi le rétroviseur. Je pense qu'elle pensait aussi à Bonjour Tristesse de Sagan, dont elle parle souvent.
Elle disait, regardez, je m'identifie à François Sagan.
Oui, elle s'identifie à François Sagan, le père séducteur, la mère décédée, la fille qui complote la mort de la maîtresse. Mais naturellement, comment voulez-vous qu'elle se...
Ça, c'est dans Bonjour Tristesse, c'est pas dans la vie de François Sagan.
Comment ?
C'est dans Bonjour Tristesse, ça, c'est
pas
dans la vie de François Sagan.
Elle parle bien de Bonjour Tristesse. Donc le miroir, c'est ça. Le miroir, c'est aussi ce qu'elle tend. Quand elle veut pas répondre, ce qu'elle tend à la personne qui l'interroge en disant, mais parlez pour vous. Et puis le miroir, finalement aussi, c'est en haut de ces tours, c'est la conservatrice de la Tate Modern qui racontait ça. Elle est montée, juste avant l'exposition, elle s'est payée le luxe de monter en haut de la tour. Elle s'est mise au milieu, là où il y a la chaise, toute seule. Et elle a dit, c'est extraordinaire. J'étais totalement absorbée par moi-même. Voilà. Et en fait, c'est ça que Louise Bourgeois veut. Elle a écrit sur l'une de ses cellules, qu'est-ce qui fait tourner votre monde? Et je pense que ça, c'est ce qu'elle nous laisse. À vous de jouer maintenant. À vous d'être créatif et de prendre en main votre propre, à la limite, votre propre pathologie et d'en faire quelque chose.
Alors, identification à Françoise Sagan, identification à Picasso, vous avez dit tout à l'heure, Nadine Satia.
Identification, c'est trop dire. Filiation, certainement pas.
Qu'est-ce qu'elle trouve dans la peinture de Picasso, parce qu'elle considère quand même que c'est le très grand artiste du XXe siècle.
Oui, elle l'a pas dit comme ça. C'est le grand artiste au moment où elle étudie l'art. C'est sa première découverte en Amérique, curieusement. Elle va découvrir Picasso en fréquentant les ateliers à partir du moment où elle suit son mari à New York.
Elle devait connaître déjà un peu puisque son mari achète précisément une gravure de Picasso le jour où ils se rencontrent.
Oui, mais je crois qu'il achète une gravure des Saltimbanques, c'est de la période rose et de la période bleue, c'est pas, enfin ça c'est toujours
Picasso,
ça fait toujours
avant Picasso,
aujourd'hui
c'est ça.
Parmi les bourgeois, le reste un peu moins. Mm-hmm. Donc elle découvre là l'artiste d'avant-garde, mais elle fait pas partie. Je pense pas que son art ne dérive en aucune manière des avant-gardes du modernisme.
Donc ça viendrait d'où alors l'art de Louise Bourgeois? Ça ne vient que de son inconscient, ou alors quand même,
mais
ça
non,
vient de ce qu'elle regarde?
Mais elle fait comme tout le monde, elle regarde tout. Elle prend des choses partout. À un moment donné, on a voulu la comparer avec certains artistes contemporains. Il faut dire que les historiens d'art adorent trouver des ressemblances. Mais elle, ce qui l'intéressait, c'était les différences. Donc en fait, vous pouvez mettre côte à côte Eva Hesse et puis les œuvres en chanvre, en résine, en latex de Louise Bourgeois. Qu'est-ce que ça vous apporte? Il y a une singularité des deux. Bon, la question, c'est quoi l'antériorité? C'est pas très intéressant, en fait. Quand on voit en 1966, quand elle expose avec Bruce Nauman, la fameuse Eccentric Abstraction de organisée par Lippard. Très bien, on voit les mains moulées de Bruce Nauman, on voit ses jeux de mots, mais elle avait déjà fait des jeux de mots, notamment avec Housewife, la femme maison, en 1947. Donc vous voyez bien, en fait, il faut suivre son chemin à elle, et puis accepter que, par contre, quand elle nous donne des pistes, par exemple, pour Fillette, je crois pas qu'elle l'a dit au moment de Fillette, mais elle a parlé à un autre moment de Gaston Lachaise. Gaston Lachaise, les sculptures érotiques tardives de Gaston Lachaise, c'est aussi des organes comme ça, tout seul. Il y en a un qui s'appelle Breast with Female Organ, des seins avec l'organe féminin, c'est le bas de Fillette. Sauf que les seins de Louise Bourgeois sont réduits à des boules sans mamelon et beaucoup plus abstraits. Mais sinon, par moments comme ça, elle-même reconnaît qu'elle a emprunté certaines choses.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi aller chercher du côté de l'architecture pour trouver des inspirations tout de même à l'œuvre de Louise Bourgeois, la femme maison. Par exemple, il y a le nom de Frédéric Kessler, qui est un architecte qu'elle a découvert très très jeune, à 14 ans, au Salon des Arts Décoratifs en 1925. Est-ce que ça n'est pas, par exemple, une de ses inspirations? Et pour les gens qui ne connaîtraient pas Frédéric Kessler, qu'est-ce que finalement elle peut trouver très jeune, à 14 ans encore une fois, dans son œuvre à lui?
Mais je pense qu'à ce moment-là, elle a pas du tout envie de... Elle sait pas du tout ce qu'elle va en faire, en fait. C'est petites choses qu'on
attrape. Ça ressemble à quoi, l'œuvre de Kessler?
Alors, les œuvres de Kessler... Kessler, c'était un pionnier de l'architecture des sphères, en fait. Donc, il exposait, dans cette exposition de 1925, ce qu'on a appelé les maisons sans fin, qui, en fait, c'est une sorte de continuum sphéroïde, où le plancher, les murs, le plafond forment un seul continuum. Évidemment, on a vu là une préfiguration des nids et des tanières de Louise, mais beaucoup plus tard, dans les années, je sais pas de quand ça date, les tanières, je me rappelle plus exactement, mais c'est tout au début. Bon, dans la même exposition, elle a vu la maquette pour le monument à la Troisième Internationale de Tatlin, qui est une espèce de qui fait penser à la tour de Babel, qui est une espèce de spirale montante comme ça. Elle a vu aussi, on le dit pas souvent, elle a vu aussi le pavillon de l'Art Nouveau de Corbusier.
Elle l'a rencontré, même, apparemment.
Elle l'a rencontré en 47, mais en 1925.
Pas à 14 ans, oui.
Corbusier appelait déjà cellule le pavillon de l'Art Nouveau de cette exposition-là. Et quant à l'architecture, mon Dieu, elle a travaillé, quand elle n'avait pas de place, elle a travaillé sur les toits de New York, entourée des buildings, et peut-être que c'est la première fusion dans son œuvre de l'organique, c'est l'organique, la fusion de l'organique avec l'architecture.
Il y a toujours eu une dimension sexuelle suggérée dans mon travail. Je suis parfois totalement préoccupée par les formes féminines, des bouquets de seins comme des nuées, mais je mêle souvent les images, des seins phalliques, mâles et femelles, actifs et passifs. La femme couteau incarne l'ambivalence de la femme, la destruction et la séduction. Pourquoi les femmes deviennent-elles des femmes couteaux? Elles ne sont pas nées ainsi. C'est la peur qui les a rendues telles. Dans La femme couteau, la femme se change en lame, elle est sur la défensive. Elle s'identifie avec le pénis pour se protéger. Une jeune fille peut être terrifiée par le monde. Elle se sent vulnérable car le pénis peut la blesser. Aussi essaie-t-elle de s'emparer de l'arme de l'agresseur. C'est un problème qui a son origine dans l'enfance et dans l'absence d'une éducation sensée et compatissante. Lorsque j'étais jeune, on parlait du sexe comme de quelque chose de dangereux. La sexualité était interdite. Il est important de dire aux jeunes filles que la sexualité est naturelle et que les hommes, eux aussi, peuvent se sentir démunis et vulnérables. Lorsque je suivais les cours de l'école des Beaux-Arts à Paris, nous avions un modèle nu masculin. Un jour, il regarda autour de lui et eut soudain une érection en apercevant une jeune élève. J'étais choquée. Et puis, j'ai pensé que c'était formidable de révéler ainsi sa vulnérabilité, d'être ainsi exposé publiquement. Nous sommes tous vulnérables d'une façon ou d'une autre, et nous sommes tous hommes-femmes.
La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cette lecture de Valérie Lang. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les carnets de Valérie Lang, les carnets de Louise Bourgeois, parce que elle plaçait très haut la littérature, mais en fait c'est aussi une écrivaine d'une certaine manière, parce que la manière dont elle parle de sa vie, de ses œuvres est tout à fait formidable.
Je me souviens, là on n'a pas parlé de Francis Bacon, qui était un des rares strictement contemporains d'elle en âge, hein, puisqu'il est né je crois en 1909, mais ça c'était un peintre elle disait quand elle voyait les œuvres de Francis Bacon, elle se sentait vivante. Quand elle rencontre Francis Bacon en 1951, elle écrit avec son visage gras et tordu, comme un melon écrasé. C'est d'un écrivain. Et en même temps, immédiatement, elle comprend que tous les portraits de Bacon sont en même temps des autoportraits. Voilà, ça c'est Louise Bourgeois. C'est une intelligence, mais aiguë, et évidemment, oui, un sens de la langue aiguë aussi.
Pourquoi est-ce qu'elle dit que fondamentalement, la vie d'un artiste, c'est la négation de la sexualité?
Mais je pense que en fait, un artiste redirige toute son énergie vers son œuvre. La sublimation, c'est ça.
Enfin, Picasso n'y est pas tellement sa sexualité.
Ah, mais écoutez, j'en sais rien. C'est une question tellement vaste. Elle dit ça parce que c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Elle avait peut-être aussi que les inhibitions qu'elle avait liées au fait qu'elle a vu trop tôt des choses qu'elle n'aurait pas vues. Peut-être que le lit représentable de la relation sexuelle qu'elle a mis un temps infini à affronter, en fait, jusqu'aux représentations de couple en personnage textile à la fin de sa vie. Bon, moi, on rentre dans des choses tellement personnelles. Mais d'un autre côté, elle dit que la sexualité ou l'absence, le sexe ou l'absence de sexe sont également importants, puisque du coup, l'absence de sexe déclenche une activité fantasmatique.
Autant de thématiques que nous aurons la chance de développer encore demain et après-demain. Merci beaucoup, Nadine Satia, d'être venue nous parler de Louise Bourgeois et de son œuvre. Pour aller plus loin, je conseille votre livre intitulé « Au miroir de Louise » est paru chez Flammarion. Tout de suite, c'est le temps de la chronique en compagnie des revues.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et en compagnie aujourd'hui du magazine L'Express et surtout en votre compagnie, Jérôme Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un livre au titre assez intrigant, Parking Peggy. De quoi s'agit-il ?
Oui, il s'agit peut-être de l'ouvrage le plus étrange de la rentrée. Il tient à la fois de l'enquête littéraire, du voyage en France, et puisqu'il est question aujourd'hui ici de Louise Bourgeois, de la performance d'art contemporain. Cela fait un peu beaucoup, direz-vous, mais le résultat est passionnant. Accompagné du photographe Léo Lepage, Charles Cousty, un enseignant en littérature, a exploré une grande partie des 427 lieux, rues, avenues, stades, écoles, parkings, qui portent le nom de Charles Péguy en France. L'écrivain, mort au front le 5 septembre 1914, est revendiqué aujourd'hui, on le sait, tant par les nationalistes que les socialistes ou les catholiques, ce qui explique cette présence massive sur nos plaques de rue. D'ailleurs, si Pégu n'est plus très lu aujourd'hui, il a toujours ses fans célèbres qui forment un large spectre allant d'Alain Finkielkraut à Edwy Plenel, de Michel Onfray à Yann Moix.
Alors que nous dit cette exploration de la France d'aujourd'hui, Jérôme ?
Beaucoup de choses. Ce voyage dans la France péguiste agit en fait comme un formidable révélateur de ce que notre pays est devenu en un siècle. Car la majorité des rues Pégui ont vu le jour entre 1950 et 1980, période de construction des grands ensembles et des lotissements. Du coup, le pèlerinage de nos deux amis s'est vite transformé en une exploration de la France périphérique. C'est Pégui au pays de Guy Louis, le célèbre géographe de la France périurbaine. Les photographies de Léo Lepage, avec ses immeubles tristes, ses pelouses mitées, ses grandes surfaces, ses pavillons déprimants, saisissent ironiquement tout ce que Pégui pensait de l'évolution de notre pays, le monde moderne avili. Charles Cousty raconte d'ailleurs très bien cette France méfiante où on les a pris, lui et son photographe, tantôt pour des cambrioleurs en repérage, tantôt pour des dealers. Dans la France bien peu littéraire de 2019, personne ne peut imaginer que deux individus s'intéressent à un écrivain mort il y a un siècle.
Donc c'est un livre qui nous parle de la France. Est-ce que c'est un livre qui nous parle aussi de Pégui ?
Oui, beaucoup. Parce que tout en cheminant à travers la France, Charles Cousty revient sur le destin de Pégui, son dreyfusisme, sa conversion au catholicisme. Beaucoup de lieux portant son nom sont du côté de Chartres, où l'écrivain se rendait fréquemment en pèlerinage, son dur labeur au cahier de la quinzaine, son élan patriotique fatal au moment de la Première Guerre mondiale. Chaque photographie est légendée par une longue citation de Pégui, très judicieusement choisie. Les effets de contraste ou de parenté entre ces citations et les photographies de Léo Lepage sont saisissants. Deux silhouettes dans une rue Pégui blafarde d'un village de Moselle renvoient à un extrait de « Nous sommes des vaincus ». Un parking Pégui des Hauts-de-Seine à une citation de l'argent et un magasin Décathlon de Strasbourg à cette magnifique citation de Situation 3 « D'autres mondes faisaient des cités, des communautés, des hommes ou des dieux ». Le nôtre, produit des décathlons, semble suggérer la photographie. Bref, l'ouvrage de Charles Cousty et de Léo Lepage illustre à merveille la géniale formule de Pégui « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit ».
Voilà, et on le voit très bien. Donc avec ce beau livre fait à la fois de textes et de photos, Charles Cousty, Léo Lepage, ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Jérôme Dupuis, on retrouve votre signature toutes les semaines dans les pages du magazine L'Express. C'est la Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jean Frédérics. Notre semaine Louise Bourgeois, elle continue demain. Nous serons en direct avec Jean Frémont, directeur de la galerie Le Long à Paris et à New York, auteur de deux livres sur Louise Bourgeois, qu'il a par ailleurs connu. Il nous racontera tout cela. Tout à l'heure sur France Culture à 18h20 dans le temps du débat, ne manquez pas la nouvelle émission d'Emmanuel Laurentin intitulée « Le mouvement des urgences peut-il s'arrêter un jour ?» Et puis dans le feuilleton à 20h30, toujours sur notre chaîne, retrouvez « Les grandes espérances » de Charles Dickens avec l'épisode 12 sur une série de 15.